Nous sommes mercredi 22 février 2017, il est 21h, vous écoutez le Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Dansgar.
Bonsoir.
On va faire une émission un petit peu intimiste cette semaine. Alors
on
je peux dire
proche.
Cette semaine en plus. Tu vois, c'est bien, c'est la nouvelle formule est quand même voilà. Vous êtes toujours dans le Dojo Bar nouvelle formule, donc je vous rappelle, nous sommes maintenant hebdomadaires.
Avec 25% de salle en moins.
Avec 25% de salle en moins.
J'ai
et,
pas compris là.
T'inquiète.
C'est la nouvelle formule.
C'est la nouvelle recette.
Ah.
Encore plus gras. Donc du coup, nous avons des émissions qui sont plus courtes, mais plus fréquentes et. Comme la semaine dernière, si tout va bien, demain soir, dans le pire des cas, le podcast est de sortie. Donc vous pourrez tous profiter du Dojo Bar, demain soir, dans vos oreilles, si vous nous écoutez en podcast. Si vous nous écoutez en direct, vous en profitez tout de suite, et c'est tant mieux. Au sommaire de cette émission, nous avons donc un seul sujet, qui est le prix de la Switch et le prix de ses accessoires. Ça a fait beaucoup de salive au moment de l'annonce officielle, que ce soit du prix américain ou du prix européen. Comme d'habitude, Nintendo va mourir, c'est trop cher, machin, tout ça. On va essayer de décortiquer un petit peu le vrai du faux et d'aller essayer de relativiser un petit peu peut-être ce prix ou le prix des accessoires ou l'ensemble des technologies qui sont à l'intérieur. Zergy, bonsoir Zergy, qui nous entend peut-être pas, je sais pas, peut-être pas, bon, c'est pas grave, Zergy dira bonjour tout à l'heure. Je pensais qu'il allait pas venir moi, je me suis dit tiens, non mais il est encore sur le rythme toutes les deux semaines je pense.
Peut-être.
Peut-être ça. Bref, mais nous allons commencer par notre traditionnel tour de table de l'actualité, et pour changer, c'est Drosgar qui va commencer.
Bonsoir.
Alors, bonsoir.
Est-ce que vous connaissez RPG Maker ?
Oui.
Oui.
Ok, c'est mauvais, on est d'accord, voilà, j'ai fini mon actu.
Useless. Non, en vrai...
Est-ce que tu peux essayer d'expliciter un peu plus que ça ? Voilà, parce que là,
non,
c'est,
en vrai,
c'est un peu,
j'aime
c'est un peu
bien en plus. J'ai eu, je suis pas resté beaucoup dessus, j'ai fait 2-3 tests, mais j'avais de gros projets, comme contrairement à d'autres personnes. Et en fait, RPG Maker, à la base, c'est une sorte de logiciel sur PC qui permet de créer des jeux, donc des RPG, on sait tout ce que c'est, des jeux de rôle surtout style RPG japonais. Après, il y a eu des modifications qui permettaient de faire des jeux un peu plus action RPG comme un Zelda, mais c'est vraiment les gens qui modifiaient beaucoup la structure du jeu initial qui était prévu.
Il y a toute la partie code en fait qui est accessible. Enfin,
c'est ça.
Quand j'avais testé ça, non, mais... il y a très très longtemps.
Quand tu avais espoir, quand tu t'es dit ah mais je peux faire mon propre jeu vidéo moi aussi.
Je serai le nouveau Square Enix.
Je dirais.
Voilà.
Du coup, explique Antique, c'est toi qui commence à parler.
Non quoi.
Alors est-ce qu'on pourrait essayer que cette émission parte un peu moins en couille, s'il vous plaît.
Non, ça va être compliqué.
Alors
Antique, donc
du coup. Antix, tu disais que...
Je disais quoi ? Oui, je voulais être le nouveau Square Enix.
Non,
voilà.
Mais qu'on pouvait accéder à toute la partie code pour modifier des choses ?
Ouais, non, en fait, il y a... Enfin, toute la partie script et tout était accessible, et donc tu pouvais bidouiller, en fait, ton propre code pour changer l'interface, changer la façon de faire des combats. Donc, tout est... Si tu savais coder, je crois que c'était du Ruby ou un truc comme ça à l'époque, à la haute époque du lycée. Il y avait moyen de se faire plaisir en fait sur le résultat.
Mais par contre, on n'est pas obligé de savoir coder justement pour profiter du logiciel. Et c'est là tout l'intérêt du soft. On peut par exemple créer nos propres maps juste en disposant les presets déjà installés dans le logiciel. Et après, via des scripts justement comme tu viens d'expliquer, on pouvait faire des petits événements qui permettaient de faire toute une histoire et tout un jeu derrière.
Donc
ça
quand, tu retrouves quand tu retrouves le petit garçon qui est perdu dans la forêt où les animaux sont devenus fous.
Hop, il se transforme en monstre par exemple.
Voilà. C'est par exemple.
Et du coup, ce jeu qui a connu plusieurs versions sur PC est sorti en novembre dernier au Japon sur 3DS.
Oh putain.
Ça peut sembler assez étonnant, mais apparemment, c'est pas si mal. Je crois que le jeu s'est vendu très peu d'ailleurs. Enfin, j'ai vu quelque part 7000 exemplaires, mais c'était peut-être au tout début. Je trouve ça relativement faible, même pour le jeu, surtout pour le Japon. Pourtant, eh bien, le jeu va être porté aux États-Unis et en Europe et va être intégralement traduit. En anglais, mais aussi en allemand, en français, en italien. Et on va avoir la chance d'avoir... Enfin, la chance, ça dépend pour qui, hein. La chance de pouvoir y jouer sur 3DS d'ici cet été. Et je trouvais que c'était assez original et assez particulier, justement, pour pouvoir le citer, si jamais ça tente des gens.
C'est vrai que ça peut être rigolo parce que dans la veine Super Mario Maker, finalement, où tu pouvais créer tes propres niveaux de Mario, le fait de dire sur une 3DS en plus en profitant éventuellement de l'écran tactile, tu peux créer ton propre jeu ou ton propre petit jeu, ça peut avoir son public. Hein. C'est pas complètement idiot, je pense. Après, est-ce qu'ils en vendront des cajots et des cajots, je suis pas certain parce que c'est vrai que la 3DS. C'est un peu compliqué, mais il me semble qu'aujourd'hui, n'importe quoi qui sort sur 3DS peut être rentable. C'est vrai qu'il y a une grosse partie du code qui est déjà faite, donc à part la traduction, il reste plus grand-chose à faire, en théorie.
Je pense pas qu'ils vont en vendre beaucoup, mais le truc en fait particulier, désolé Antix, c'est juste que on peut partager facilement les jeux qu'on a fait, et au Japon a été fait un logiciel sur eShop qui permettait justement de jouer aux jeux des autres, sans pouvoir recréer derrière, mais gratuitement. Du coup, juste avec ce petit logiciel, on pouvait télécharger les jeux des autres, et après du coup ça pouvait donner envie derrière d'acheter le jeu complet pour pouvoir en faire nous aussi.
Ah, c'est plutôt malin ça par contre.
Ouais, finalement c'est l'échantillon représentatif, c'est le petit échantillon de drogue pour que tu puisses faire le tien derrière.
C'est ça, pour dépenser les 40€ qui restent.
Après, je peux comprendre que le jeu se vende pas des milliers de cents, parce que autant Super Mario Maker, c'était plutôt intuitif, et au final, faire un niveau de Mario, ça reste quand même un niveau qui dure à peine quelques minutes. Autant, pour un RPG Maker, on parle peut-être de projets un petit peu plus... Enfin, pas ambitieux, mais pour le coup, tu fais quasiment un jeu complet, quoi. Après, je sais pas comment est la version 3DS... en termes de fonctionnalités et compagnie, mais c'est peut-être un petit peu moins direct que Mario, où finalement tu fais ton niveau assez vite, puis tu peux le faire complètement, enfin tu peux jouer complètement au niveau assez rapidement en fait.
Oui, c'est vrai que tu la phase de test finalement, enfin c'est très itératif Super Mario Maker, c'est-à-dire que tu crées un bout de truc, tu peux le tester, tu te remets en mode création pour corriger, tu retestes et ainsi de suite, alors que c'est vrai qu'RPG Maker t'es quand même obligé de passer un certain temps ne serait-ce que sur la carte par exemple, avant de pouvoir commencer à tester quoi que ce soit. Puis t'as tout l'aspect, t'es obligé, théoriquement obligé d'écrire un peu une histoire, un machin, parce que si tu fais un RPG, t'es censé faire quand même quelque chose d'un peu plus consistant qu'un niveau d'un jeu de plateforme où finalement t'as pas besoin de te casser beaucoup le cul.
Et encore, tu as passé que 30 secondes ou 2 minutes.
Voilà. Drosgar, est-ce que tu veux enchaîner sur ta deuxième actu tout de suite ?
Non, je vous laisse faire un.
Alors j'en fais une petite rigolote. Il y a un monsieur qui a trouvé un bug très très rigolo dans Pokémon Bleu. Alors Pokémon Bleu, c'est le premier.
C'est la première génération, ouais.
C'est la première génération, c'est ça. Alors il y a un moyen d'arriver à glitcher le jeu en fait, à faire une espèce de bug qui fait que les Pokémon ne bougent plus et que les boss font figer le jeu complètement. Donc ça ne sert pas à grand chose, mais en faisant certaines manipulations, on peut arriver à se débrouiller pour avoir une sauvegarde qui fait que le jeu est dans cet état-là. C'est-à-dire, tu peux capturer aucun Pokémon, et tu peux battre aucun boss. Mais ce qui est le plus rigolo, c'est que y a un des joueurs qui s'est rendu compte qu'en fait, en se débrouillant un petit peu, on pouvait arriver à transmettre ce bug-là comme une espèce de virus d'une cartouche de Pokémon à une autre. C'est-à-dire qu'en fait, en se servant simplement du câble Link de la Game Boy pour linker deux Pokémon bleus, on pouvait aller pourrir la sauvegarde des autres. Avec ce glitch qui faisait que tu transmettais tout, le fait que les boss soient figés, le fait que les tu puisses plus capturer de Pokémon et ainsi de suite, et je ne sais, alors apparemment le mec a l'air de dire qu'on peut quand même revenir à l'état original de la cartouche en effaçant complètement sa sauvegarde, mais le truc est quand même assez rigolo parce qu'effectivement ça se transmet comme un virus, et du coup le mec a commencé à étudier un peu le truc pour voir comment ça faisait, et il s'est rendu compte que le protocole de transfert d'une Game Boy à une autre était tellement simple que Nintendo n'avait même pas pris la peine de faire la moindre vérification sur ce qui était transmis, et en gros on peut transmettre à peu près n'importe quoi vers une cartouche de Pokémon, une fois qu'on a à peu près compris comment ça marche. Du coup il y a des gens qui commencent à essayer, à partir de ce bug, de créer des Pokémon, simplement de les transférer depuis un PC par exemple, directement sur une cartouche, en transférant des caractéristiques et des choses comme ça, en transférant pas juste un numéro de Pokémon, mais en transférant, on va dire, d'autres données, en essayant de bourrer un peu à l'intérieur du paquet de données, pour pouvoir modifier des caractéristiques du jeu. Je sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant parce que on a encore... Enfin, ça fait quand même, quoi, 25 ans maintenant, Pokémon, quelque chose comme ça ?
20 ans ? Pas tant, ouais. Un peu moins de 20 ans, 20 ans, ouais.
20 ans que le jeu est sorti, il y a encore des gens qui trouvent des bugs, et il y a encore des gens qui arrivent à trouver des trucs un tout petit peu intéressants à faire avec la cartouche originale du jeu, et peut-être que ça amènera à d'autres bugs, et peut-être que ça amènera à faire du speedrun encore plus rapide, à pouvoir créer des versions hackées encore plus abouties, etc., etc., etc. Pour l'instant, c'est juste un virus, entre guillemets, qui se transmet et qui pourrit les sauvegardes de Pokémon. Donc méfiez-vous si vous faites encore des échanges de Pokémon, si ça se trouve, vous allez avoir quelqu'un qui va essayer de vous pourrir.
Bah, le plus intéressant à ce que tu viens de dire, en fait, c'est que les versions bleu, rouge et jaune, donc la première génération, sont sorties il y a quelques mois pour fêter les 20 ans de la licence sur 3DS. Et ils sont sortis, elles sont sorties normalement dans leur version originale, donc sans avoir été retouchées et sans debug. Alors qu'on corrige si je me trompe, mais normalement c'est bien le cas. Et si s'il n'y a eu aucun changement, bah ce bug pourrait être aussi effectué sur la version 3DS qui date d'il y a 6 mois.
Théoriquement oui, sauf que je suis pas sûr qu'avec le câble Link, je suis pas sûr qu'on puisse l'émuler sur 3DS. Sauf
ouais,
si
mais
Nintendo
peut,
a fait un truc pour
on
ça.
On peut faire des échanges sans fil maintenant, en fait, avec
ça. Alors si ça se trouve, on peut peut-être arriver à infecter effectivement des sauvegardes de Pokémon bleu. Alors apparemment c'est spécifiquement que Pokémon bleu. Hein.
Ouais, c'est possible.
On peut peut-être arriver à infecter des sauvegardes de Pokémon bleu effectivement sur la version 3DS. Ça peut être intéressant. Ouais.
Et du coup, ce serait peut-être encore pire parce que justement, c'est en lien, enfin, un peu avec ma news suivante, qui est au final la compatibilité de la banque Pokémon. Donc la banque Pokémon, c'est le support de Nintendo, enfin de Game Freak, pardon, qui permet de stocker des Pokémon, donc comme le PC du jeu, mais en bien plus grand sur des serveurs, pour pouvoir transférer les Pokémon d'une version à une autre. Par exemple, de Pokémon X jusqu'à Pokémon Rose, Ruby Alpha. Rose ? Et,
oui, je suis pour Rose.
Et derrière,
pour Rose.
Oui, non plus. Et derrière, cette banque vient d'être mise à jour pour être compatible à la fois avec Pokémon Soleil et Lune, c'était toujours pas le cas et on l'attendait depuis très longtemps, mais aussi avec les versions Pokémon Rouge, Bleu et Jaune qui sont sur 3DS. Donc si on arrivait à infecter une version bleue numérique de 3DS, et qu'on arrivait derrière à infecter la banque Pokémon, ça pourrait être... Enfin, je sais pas si c'est possible, mais techniquement...
Alors, là, pour l'instant, c'est d'un jeu à un autre. Je suppose, parce que Nintendo ne faisait quasiment pas de contrôle de code entre les versions de Pokémon. Parce que c'est vrai qu'un câble Link, au pire des cas, ça fait pas grand-chose. À mon avis, la banque Pokémon, si tu peux injecter des données dedans, ils doivent quand même faire 2-3 vérifs.
En général, ils vérifient quand même, parce que tous les Pokémon ils sont virés automatiquement. Mais on sait jamais, faudrait plutôt faire attention, je pense.
Bah oui, ça peut effectivement donner des choses un peu bizarres.
La peste noire de Pokémon.
C'est le choléra de Pokémon bleu. On va marquer une première petite pause musicale, et la seule d'ailleurs en fait, et on se retrouvera tout de suite après pour parler du prix de la Switch. Nous allons écouter la musique du premier stage de Gradius 2, version NES, le titre s'appelle Burning Heat. Et c'est, vous allez voir, un morceau qui est vraiment du 8-bit typique NES, mais très proche de la version arcade. J'ai fait une grosse crise de Gradius hier, j'ai joué pendant une bonne heure à Gradius 2, et c'est un jeu qui est extrêmement agréable. Je savais pas qu'il y avait une version Famicom, c'est jamais sorti aux États-Unis, c'est jamais sorti en Europe. Voilà, donc profitez-en, Burning Heat, Gradius 2 sur Famicom, on se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Ah merde, j'ai coupé le... Ah, voilà. C'est pas grave.
Tour quand même,
tout à fait. On va discuter du prix de la Switch. Alors c'est vrai que... Alors l'annonce a peut-être pas surpris grand monde, mais on a commencé par dire... Voilà, la conférence du 13 janvier, c'est ça ? Quelque chose comme ça, 12 janvier, 11 janvier... 13 janvier. Merci beaucoup. Nintendo a commencé par dire $300 aux États-Unis. Voilà. Prix de sortie $300 sans jeu, évidemment, hein, c'est $300 la console nue. Et Nintendo France a embrayé, je crois, dans la journée pour dire en Europe c'est €330. Et là, tout d'un coup, comme d'habitude, internet est devenu un peu foufou en disant mais €330, mais c'est quoi ce bordel, mais machin, pourquoi on paye plus cher. Alors, pour commencer tout de suite à expliquer un peu les différences, parce que je pense que c'est quand même important. $300 aux États-Unis, c'est $300 hors taxe. Le problème étant qu'aux États-Unis, si tu commandes en ligne, tu payes pas la TVA. Donc en fait, Amazon te le vend effectivement $300, mais le magasin du coin de la rue te le vendra $330, $340 en fonction, $350 en fonction des États.
De mémoire, c'est pas de TVA parce que voilà, ça dépend des États.
Exactement, en fait, il y a une TVA fédérale, en gros, qui s'applique à tous les États, et ensuite il y a la TVA nationale, la TVA de l'État dans lequel on est, qui cumule. Donc la plupart des Américains calculent leur. Enfin, présentent des produits et calculent toujours hors taxe, parce qu'en réalité, ils peuvent pas prévoir quelle taxe tu vas payer. Si t'es en Iowa, tu vas pas payer la même chose qu'en Utah, tu vas pas payer la même chose qu'en Alabama, et ainsi de suite. T'as la taxe fédérale qui est à peu près la même pour tous, et puis après, il y a les différences régionales, on va dire. Par contre, 330 euros en Europe, j'en connais deux ou trois qui ont quand même bien tiré la gueule le jour J, quoi.
Moi, un petit peu, mine de rien. Après, c'est vrai que quand ça coûte déjà 300 euros, t'es plus à 30 euros près, quoi.
Ouais, mais bon, au final, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une guerre des prix un petit peu débile, vous avez pu la suivre sur Twitter d'ailleurs, où le prix a baissé progressivement de 330, 325, 320. Amazon avait même commencé, je crois, à 350 ou 360, une connerie comme ça.
Ouais, parce qu'en fait, à ce moment-là, le prix n'était pas vraiment indiqué. Je crois que c'était Micromania qui avait dit 350.
C'est possible, mais enfin, ça avait commencé haut. Et là, au final, tout le monde a fini à peu près par s'aligner à 300 euros. Je crois qu'à peu près tous les magasins en ligne, que ce soit Micromania, la Fnac. Ouais.
En gros, tu peux trouver la console. Quasiment partout à 350 euros avec Zelda par exemple. Enfin, moi, je sais que quand je l'ai commandé la semaine dernière, après Fnac, c'était 350 avec Zelda. Amazon, c'était pareil. En gros, ils étaient tous alignés, quoi.
Oui, mais puis après, il y a les différentes opérations de cashback des uns et des autres où on va. Alors, ça, tu payes 300, mais tu reçois 50 euros de chèque cadeau, machin, tout ça. Enfin, bon. Au final, tout le monde a fini par arriver à peu près à 300 euros. Donc, mais Nintendo France continue à maintenir que le prix public de vente c'est 330 euros. Enfin, en tout cas, le prix maximum conseillé, parce que je crois qu'en réalité ils n'ont pas le droit de donner de prix public de vente.
Non, c'est la réglementation qui veut ça, il me semble.
Donc, oui, ils avaient donné un prix public conseillé. Alors, je rappelle qu'aux États-Unis c'est la même chose, hein, c'est 300$ hors taxe, MSRP, c'est-à-dire maximum seller retail price. Donc, en gros, ils donnent une espèce de prix maximum conseillé aussi, mais ils n'ont pas le droit non plus de dire c'est ce prix-là. Les vendeurs font à peu près ce qu'ils veulent. Néanmoins, eux donnent un prix maximum conseillé. Alors, je ne sais pas si Nintendo donne un prix maximum ou si c'est un prix indicatif ou si c'est probablement quelque chose de très compliqué.
Normalement, c'est un prix moyen, en fait, qui est calculé selon le prix des revendeurs, des différents revendeurs. Il y a un article de GameCult là-dessus.
Oui, effectivement, il y a Oscar qui avait fait un truc là-dessus pour dire pourquoi est-ce qu'en France, on peut pas, enfin en Europe, on peut pas annoncer les vrais prix fermes comme aux États-Unis, sachant qu'aux États-Unis, je rappelle, c'est pas des prix fermes, c'est vraiment le prix maximum conseillé. Bref, donc le prix de la console en lui-même, est-ce que ça vous paraît juste ou pas? Est-ce que vous attendiez à plus? Est-ce que vous attendiez à moins?
Moi, je m'attendais à quelque chose dans ces eaux-là. À 300 euros, vu les rumeurs qu'on avait, et vu ce qui a été présenté en octobre dernier. Oh, c'était octobre ou novembre, je sais plus. Enfin bref.
Novembre, mais c'est pas grave.
Vu ce qui a été présenté à ce moment-là, moi je sentais arriver de toute façon les 300 euros minimum parce que, mine de rien, autant la console sera pas aussi puissante qu'une PS4, mais derrière on a quand même une technologie qui est faite pour passer du mobile, enfin du salon mobile, donc ouais, c'est un coup derrière. Et dernier retour qu'on a eu, donc des gens qui ont eu la console soit en avance de façon plus ou moins légale. Non, on en reparlera, c'est un jour celui-là qui était rigolo. Soit les journalistes qui l'ont eu, c'est que globalement on a affaire à Nintendo à essayer de limiter au maximum les compromis, et quitte à pour proposer, en tout cas en termes de composants pour du mobile, ce qui se faisait de mieux. Donc on se retrouve avec un prix qui est le prix qu'il est à l'heure actuelle, mais à côté on devrait avoir un bel écran, une puissance pour un quelque chose de portable qui est vraiment particulièrement intéressante. Ce sera à voir pour du salon. Donc le prix de la console en lui-même me dérange pas plus que ça. En plus, c'est globalement dans la moyenne des, il me semble, hein, si je me trompe pas, des consoles à leur sortie, quoi.
Alors en fait, c'est même un petit peu mieux que la moyenne. J'ai ressorti une petite statistique d'IGN, alors qui n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement fiable, mais ça permet d'avoir une idée. La console, alors tout constructeur confondu ou presque, c'est-à-dire que les mecs ont fait une compilation en fait de toutes les consoles en mettant leur prix de vente original et en mettant le prix déflaté, c'est-à-dire en prenant en compte l'inflation, donc ouais. On va dire en dollars d'aujourd'hui. Alors comme c'est IGN, évidemment c'est en dollars américains, mais ça peut donner une idée. La console la moins chère dans leur classement, c'est la GameCube.
Ouais, mais ça en même temps, c'est déjà pas très cher à la
voilà.
sortie, quoi.
199$ à sa sortie, l'équivalent en dollars d'aujourd'hui, c'est 270,64$. Donc c'est ouais. la moins chère. Ensuite vient la Dreamcast, 199$, l'équivalent d'aujourd'hui, ce serait 287,69$. Elle est sortie 2 ans avant la GameCube, hein, je rappelle. La Wii, 249$, c'est l'équivalent de 297$ d'aujourd'hui. Et ensuite, la Switch, 299$. Et derrière, si on enchaîne, on a la N64, la Super NES, qui montent progressivement, alors en dollars déflatés, donc 305$, 351$, la Mega Drive, la TurboGrafx 16, je sais pas comment, enfin TurboGrafx quoi, la PS4 Pro, la Xbox, etc., etc., etc. Sachant que dans le bas du classement, donc la console la plus chère le jour de sa sortie, c'était la PlayStation 3. Parce qu'à 599$ de 2006, ça fait 715$ d'aujourd'hui.
Ouais, de toute façon, la PS3, à sa sortie, était de toute façon la plus chère, quoi qu'il arrive.
Je pense que, voilà, toutes catégories confondues, c'était la plus chère. Mais voilà, donc du coup, dans le classement d'IGN de, effectivement, la console, le prix des consoles, on va dire, en dollars d'aujourd'hui, c'est-à-dire ramené à l'inflation et à tout un tas de phénomènes, en dollars d'aujourd'hui, la Switch est quatrième du classement général, dans lequel, voilà, elle est seulement devancée par GameCube, Dreamcast, Wii. Et juste derrière, il y a la N64 qui est 5$ de plus. Donc c'est... Enfin, moi, par rapport à ça, je trouve pas ça déconnant. Après, j'avais regardé aussi le prix au Japon, et je vais excuser, je vais devoir vous laisser une toute petite minute.
Ah oui, effectivement, on va attendre.
Je vous laisse continuer, je vous prie de m'excuser.
Donc le prix au Japon, on
non,
est
mais
mal.
Même, moi, le prix en général de la Switch, enfin, je trouve presque... trop faible. Alors le problème, c'est qu'il faut réussir à toucher tout le monde, et avec les derniers problèmes avec la Wii U, il fallait bien réussir à reconquérir le public cible. Mais pour ce qu'on peut attendre pour la techno qu'il y a derrière, je m'attendais franchement à plus cher que ça, et au final, bah, ça me va qu'elle soit pas aussi chère, mais j'ai peur qu'on soit déçu et qu'elle... vraiment au niveau technique, qu'il y ait des soucis, qu'elle rame un peu, ou alors que l'autonomie soit vraiment trop faible.
Bah ça
ou,
pour l'autonomie, ils ont déjà annoncé...
Oui, mais après, entre ce qui est annoncé et ce qu'on pourra vraiment tester dans la vie de tous les jours...
On est d'accord, mais entre 2 et 3 heures pour Zelda, moi c'est comme ça que je l'ai pris. Hein.
Ouais.
Donc à voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette histoire de l'autonomie, mais à l'heure actuelle, enfin en tout cas... avec le rythme de vie que la majorité des gens ont lorsqu'ils ont dépassé les 20 ans, parce qu'on va pas se mentir, la partie portable, ça leur est surtout destinée. Est-ce que ça t'arrive de passer moins de 3 heures, enfin plus de 3 heures loin d'une prise électrique?
Pas souvent, c'est quand je prends le train par exemple, parce que pour aller jusqu'à Paris, il me faut 3h30.
Ouais, mais t'as des exemples comme ça, le train, le bus, l'avion, mais ça reste assez exceptionnel. Et puis maintenant,
de plus en plus, t'as des prises dans ces...
Et de plus en plus, t'as des prises dans tous ces trucs-là. Hein.
Ouais, donc, on peut la charger sans socle, je me souviens plus.
Oui, il y a le câble. D'accord. Normalement, il y a le câble, c'est un câble USB-C, donc c'est... Alors, de ce que j'ai compris, c'est pas encore complètement normé, le USB-C, mais ça reste un embout générique, qui est différent de l'USB-B qu'on a à l'heure actuelle, mais qui est amené à devenir un standard par la suite. Voilà, c'était le petit cours d'info.
Ça fait toujours plaisir.
Voilà, mais pour revenir à ce que tu disais, ouais, sur les déceptions et tout... alors effectivement le prix peut paraître peu élevé par rapport à ce qu'il y a dedans, mais encore une fois c'est toujours difficile d'évaluer ce genre de choses parce que ça prend en compte des éléments comme la R&D, et je pense que pour ce type de console ça a pu prendre un petit peu de temps, même si globalement la Wii U a sûrement été une espèce de bêta voire de crash test pour ce qu'est devenu la Switch. Mais après, à côté, il se rattrape quand même pas mal sur les accessoires. Hein. Moi, je vois le prix des Joy-Con, par exemple, ça me fait un petit peu peur, pour le coup.
Bah, par contre, au niveau du prix des Joy-Con, j'ai moins été choqué. Enfin, ça m'a semblé être un prix normal quand on voit le prix d'une manette classique, manette pro, si on veut, qu'on peut voir dans chaque concurrence, ou même avec le prix d'une Wiimote et d'un Unshock à la base. Là, c'est comme si on avait deux Wiimotes, mais plus performantes. Et au final, quand on prend un pack, c'est quoi? C'est 80 le pack?
Ouais, c'est plus cher qu'un jeu, en fait.
Oui, c'est plus cher qu'un jeu, on a quand même plus de manettes.
Tu disais, Sergi, pardon.
Ouais, c'est ça, t'en as deux, puis je pense que
Enfin, tout le monde a gueulé avec le prix des Joy-Con, mais qui a 4 manettes sur toutes ses consoles? Pas grand
Après,
monde.
Ouais, effectivement, c'est 4
Et
manettes,
puis...
c'est des manettes amputées, hein.
Ouais, on joue pas souvent à plusieurs.
T'achètes un pack, t'as deux Joy-Con, et avec un seul pack, t'as de quoi faire du party game avec 3 potes, finalement.
Oui, ceci dit, je crois que tu peux même pouvoir lancer une partie de Mario Kart avec un ami. Faudra compenser avec les petites manettes et dans le pire des cas, je pense qu'on sera assez nombreux à le faire rapidement, prendre une manette pro. Lui pourra jouer avec les Joy-Con, donc c'est quand même. Enfin, ouais. C'est vrai que le multi, pour le coup, est plutôt favorisé dès le pack de départ.
Après, moi, pour le prix, je pense qu'il ne pouvait pas forcément faire plus que 300 €. Parce que c'est une console Nintendo, quoi. On n'est pas sûr d'avoir beaucoup de tiers derrière. Et autant les gens sont prêts à mettre du 500 balles dans du PlayStation ou dans du Xbox, autant dans du Nintendo, on n'est pas prêt à mettre autant.
Et encore, la PlayStation 3 a prouvé que 600 € dans une PlayStation, les gens n'étaient pas prêts et préféraient prendre une Xbox.
Oui, parce qu'il y avait la Xbox à côté, mais bon.
Bah là, y a deux autres consoles à côté, du coup.
Oui, enfin, la Xbox, bon, autant prendre une PS4.
À l'époque de la PS3, la 360 marchait bien.
Oui,
là,
bien sûr,
oui,
mais
là t'as la PS4 en face, et on va pas se mentir, la PS4, elle fera peut-être pas les scores de la PS2, mais en termes d'hégémonie et de supériorité par rapport à ses concurrents, elle est quand même au-dessus pour le moment. C'est un peu comme il y a 15 ans maintenant. Oui, c'est loin.
Putain, déjà.
Eh ouais, déjà.
J'étais encore si jeune.
Mais de toute façon, 300 €, je pense que c'était un prix plafond, même pas que en termes de console Nintendo, mais aussi en termes de par rapport aux acheteurs, parce que à l'heure actuelle, la PS4 et la Xbox One, tu peux les trouver à 300 €
avec des bibliothèques. La Xbox One, tu peux la trouver à beaucoup moins cher que ça.
Oui, oui, pas cher la Xbox One.
Ça t'en baissé de prix ? Enfin, tu pars sur l'occasion, non ?
Non, même pas en occasion. Tu as eu pendant pratiquement tout le mois de janvier. Parce qu'en fait, depuis que la Xbox One S en fait est sortie.
Vide les stocks de l'ancienne.
Je pense que Microsoft vide les stocks et t'as eu des offres assez délirantes. Enfin, moi j'ai déjà vu un truc. Alors, après, c'est dans des magasins physiques, donc je sais. Est-ce que c'est le magasin qui visait son stock en particulier ? Mais j'avais vu des trucs où t'avais une Xbox One avec deux jeux pour genre 180 €, quoi.
Ouais,
c'est
après,
vraiment sur des prix ultra planchés, quoi.
Microsoft, là, tu commences à sentir qu'ils veulent aussi un peu l'écouler. Et je pense que qu'ils veulent un peu écouler la console. Et déjà, ils donnent plus les chiffres de vente.
On a bien dit écouler, pas la couler.
Oui, la couler. Bah, ça, ils l'ont déjà fait eux-mêmes. Ils l'ont déjà fait avant. Mais en fait, ouais, je pense qu'ils veulent. Enfin, ils se permettent de baisser les prix. Enfin, ils acceptent que les revendeurs baissent les prix autant. Parce que derrière, eux, ce qui les intéresse, c'est aussi le nombre d'utilisateurs. Et maintenant, c'est ça, en fait, qu'ils annoncent. D'ailleurs, c'est plus le nombre de ventes. Ils en parlent même plus. Le nombre de Xbox vendus, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs qui a peut-être plus intéressé derrière.
Oui, mais alors je crois qu'ils comptent d'une manière un peu particulière, parce que, enfin, ils bidouillent les chiffres comme ils en veulent. En gros, c'est les utilisateurs du Xbox Marketplace, donc c'est les utilisateurs de Windows 10 qui se sont connectés au moins une fois, les utilisateurs de Xbox 360 qui sont toujours actifs, les utilisateurs, enfin, les mecs se touchent un peu le cul avec le nez.
Ah, totalement, hein.
En mode, vous voyez, on a
vachement de monde.
Non, mais autant Steam annonce 20 millions d'utilisateurs, s'ils prennent en compte qu'un utilisateur, c'est quelqu'un qui a téléchargé au moins un jeu, par exemple, pourquoi pas. Et encore, faudrait quand même regarder les utilisateurs actifs. Mais c'est un petit peu comme... Enfin, c'est le concours de Kékette, un peu comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on a 1 milliard d'utilisateurs actifs, on a 100 millions d'utilisateurs actifs. Quand tu regardes dans la réalité, je suis pas sûr qu'il y en ait tant que ça.
Dans la réalité, deux jeux bien plus.
Bref, je crois que vous avez déjà abordé le prix des accessoires, me semble-t-il. Enfin,
mais du coup, Mortal, quel est ton avis, toi, sur le prix, non ? Tu m'as dit.
Moi, honnêtement, j'étais un peu surpris du fait que Nintendo dise 330 alors que Nintendo US dit 300. C'est peut-être le seul... parce que d'ordinaire, on a quand même à peu près un taux de conversion qui est de cet ordre-là. Donc ça, c'est le seul truc qui m'a un peu surpris.
C'est ouais. Nintendo France aussi, hein.
Oui, c'est Nintendo France. Alors après, c'est des vrais cons, donc c'est vrai qu'on a... Excusez-nous, hein, Nintendo France, hein, c'est...
On vous aime bien, mais vous n'avez pas invité.
Fallait nous inviter, sinon on vous traite de cons. Moi, je trouve que au global, 300 €, c'est plutôt pas mal, parce que quand tu regardes les... C'est une tablette moyenne de gamme. Et avec une tablette moyenne de gamme, tu n'as pas cette puissance graphique-là. Et les tablettes qui sont dédiées au gaming, en général, coûtent à peu près ce prix-là, voire plus, alors qu'elles sont largement moins bonnes. Et quand tu regardes le prix d'une Shield, parce que basiquement la Switch c'est une Nvidia Shield 2 en gros, enfin c'est une Nvidia Shield qui dit pas son nom, elle coûtait, je crois que la Shield à sa sortie elle coûtait quand même 250 ou 270 euros, une connerie comme ça, donc c'était quand même pas donné non plus.
Après avec la Shield, si t'as un gros PC qui suit et la fibre, tu peux y jouer n'importe où avec tout ton catalogue, enfin une bonne partie de ton catalogue Steam.
Ah oui, non, complètement, j'ai pas dit, c'est un produit complètement différent, mais
oui, voilà.
Moi ce que j'ai l'impression c'est que la Shield ça s'est pas tellement bien vendu, enfin, peut-être dans certaines régions du monde.
Non, j'ai pas l'impression que ça a vraiment marché en vrai.
Je suis pas sûr que ça ait décollé parce que c'est toujours pareil, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, on en discutait un petit peu en off, l'interview qu'a donné le président de Nintendo à Gamekult en disant bah... qu'est-ce que vous avez appris de l'échec de la Wii U ? Et en fait le mec disait bah voilà, échec, apprentissage. Et c'est la mobilité dans le salon, c'est trop limité. Et je pense que la Shield, en réalité, a ce problème-là. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fibre chez lui. Donc il fallait une mobilité qui soit un peu plus efficace. Et qu'il fallait plus se différencier sur 2-3 trucs. Mais voilà. En gros, ce que je pense du prix, c'est que c'est plutôt le bon prix. C'est-à-dire, ça m'aurait fait plaisir que les mecs annoncent 250. Mais très honnêtement, je trouve qu'à 300, la promesse, en tout cas, tient la route à 300. Voilà. Pas dire mieux que ça. Après, je trouve que le prix des accessoires, par contre, est un peu plus compliqué à avaler.
Bah, après, ça a toujours été un peu la politique de Nintendo de se rattraper sur les jeux et les accessoires.
Oui, ça a toujours été le cas, ça, effectivement. Maintenant, enfin, c'est à relativiser aussi un peu, parce que il me semble que quand la Xbox One est sortie, la manette Xbox One seule, comme ça, coûtait largement 70 euros. Vous me dites si je me trompe, mais moi il me semble que...
Oui, oui. Mais, de toute façon,
ouais, je crois que j'ai payé la mienne à peu près ça, ouais.
Enfin, le prix des manettes augmente de plus en plus. Enfin, là, je sais que la PS4, les manettes sont aussi à 70 euros. Alors, peut-être plus maintenant, 3 ans après sa sortie. Non, plutôt, 3 ans, déjà. Mais ils avaient déjà des prix assez élevés de ce côté-là. Donc, 80 euros pour les Joy-Con, c'est plutôt dans l'air du temps... Parce que y a des technologies qu'il n'y a pas dans les autres manettes. Moi, je commence à trouver ça un petit peu cher.
Mais par exemple, bon, 80 euros pour les Joy-Con, je trouve pas que ce soit totalement abusé. D'autant plus qu'effectivement, les paires de Joy-Con supplémentaires, si tout va bien, tu vas pas en avoir besoin avant un moment.
Entre guillemets, t'achètes une paire et voilà, ça suffit.
Mais même, t'as déjà la paire. Ça fait aussi très longtemps. C'est quelque chose. C'est rigolo parce que personne n'en a parlé, ça fait aussi, je crois que depuis la Super NES, on n'avait pas eu une console Nintendo fournie avec deux manettes.
Il y avait deux manettes avec la Super NES ?
Il y avait deux manettes avec la Super NES. La plupart des packs, il y avait deux manettes avec la Super NES.
Ouais, ceci dit, c'est deux manettes...
C'est deux manettes très basiques, certes, mais il y avait deux manettes. Sur N64, t'avais une seule manette qui était fournie avec la machine. Sur GameCube, t'avais une seule manette fournie avec la machine. Sur Wii, t'avais qu'une seule manette fournie avec la machine. Et vu le prix des Wiimote par rapport à ce qu'elle coûtait à produire, c'était quand même la bonne vache à lait, y a pas de problème.
Là, je suis bien d'accord.
Ça partait vite. Hein.
Ça, c'est quand même bien parti en couille assez vite. Sur Wii U, t'avais que le Gamepad. Et au final, la plupart des gens n'ont pas acheté de manette pro derrière ou quoi que ce soit. Je suis peut-être le seul à avoir deux manettes pro avec
la Wii. J'en ai même pas acheté et pourtant, la manette pro me plaisait, mais j'ai jamais investi dedans.
C'est dommage parce qu'elle est vraiment bien.
Elle est très bien pour le PC.
Elle est très bien pour le PC en plus aussi. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Franchement, jouer sur PC avec, c'est très agréable. Enfin bref. Donc, ça va le cochon d'Inde là ? Donc la console est déjà fournie avec deux manettes, ce qui fait que dans plein de situations, tu as envie de partager la joie avec quelqu'un, tu lui tends un Joy-Con et c'est réglé. Et c'est déjà énorme. Et le Joy Grip, par exemple, est une idée géniale aussi, parce que c'est un accessoire qui doit coûter à peu près que dalle à produire, mais qui te permet d'avoir une vraie manette dans ton canapé sans pour autant être obligé de racheter, de repasser à la caisse. Je pense que ça, c'est plutôt une bonne idée. Donc, la paire de Joy-Con supplémentaire, elle est chère, mais à mon avis, elle va concerner assez peu de monde. Le Pro Controller va peut-être concerner un petit peu plus de monde, et encore, parce que si ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui vont juste se contenter de la console de base. Moi, le prix qui me fait un petit peu chier, c'est celui du dock.
Ouais, mais tu vas pas en racheter, quoi.
Bah, ça dépend, parce qu'en fait, au départ, je pensais, comme c'est de l'USB-C, je pensais qu'on pourrait brancher un câble USB-C, un convertisseur USB-C vers HDMI, tout bêtement, qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. C'est encore un petit peu cher, mais on en trouve un petit peu partout. Et en fait, apparemment, non, Nintendo a dit non, il y a une technologie bien particulière dans le dock, donc on peut pas juste brancher un câble USB-C vers un HDMI et sortir sur un écran.
Ça, je savais pas. Justement, tout à l'heure, je disais que c'était de l'USB-C, c'était plutôt standard, donc...
Alors, c'est bien, ça, c'est standard.
Non, mais attends, t'as une prise USB... Enfin, t'as une prise HDMI sur le dock, non?
Oui, t'as une prise HDMI sur le dock, mais justement, si tu te trimbales juste avec ta Switch sans ton dock...
D'accord, tu peux pas te brancher sur une télé directement exactement. Avec que la Switch. D'accord.
Exactement, parce que moi je m'étais dit, tu vois, tu t'arrives au boulot avec tes collègues, alors effectivement tu peux jouer juste sur l'écran de la Switch, et je pense que dans plein de situations ça peut suffire, mais si t'as l'écran plasma de 65 pouces dans la salle de réunion du conseil, par exemple, hein, pour donner un exemple fictif, ça peut être vachement sympa d'aller juste brancher ta Switch sur le câble HDMI, et voilà quoi, et là tu partages la joie, mais en grand écran. Et avec un petit son modulaire dans la salle qui est quand même sympa. Tu peux tenter des trucs. Et là, je me dis, c'est dommage parce que tu vas être obligé d'aller acheter un deuxième dock juste pour ça, quoi. Pareil, tu te dis, je sais pas, j'ai la télé dans le salon, là, c'est la télé dans la chambre, je veux pouvoir jouer sur l'une ou l'autre des télés, t'es obligé d'acheter un dock par télé parce que, sauf si tu trimbales ton dock et ton machin et ton truc, mais c'est quand même chiant. Donc voilà, et 30€ pour le dock, sachant que dedans, Nintendo dit que c'est un truc propriétaire, mais je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça. Ça, je trouve ça un peu cher, quoi. C'est vraiment un bout de plastique avec deux prises et un petit circuit électronique dedans, et puis c'est à peu près tout.
Après, je suis pas sûr que ça concerne tant de monde que ça, quoi.
Je sais pas, une console qui se joue en mobilité, mais que tu peux... Je sais pas. Je me dis, c'est typiquement le genre de truc, tu ramènes ça chez des potes... Tu pourrais ramener ça chez des potes et dire « Ah, vas-y, allume la télé, on branche la Switch, t'as juste ton petit câble dans ta sacoche et c'est réglé. » Là, t'es obligé d'avoir le dock si tu veux en profiter sur la télé. Alors, autant sur un jeu comme One to Switch, je pense que t'en as un peu rien à foutre puisque l'objectif, c'est d'oublier un peu la télé, justement. Mais, je sais pas, tu veux faire un Super Bomberman Air, t'es obligé de ramener ton dock, finalement, si tu veux jouer sur la télé de ton pote. Voilà. Non, mais c'est un simple avis, mais c'est vrai que je trouve que le dock à 30€, ça fait cher. Et je trouve ça dommage qu'on puisse pas le remplacer par une solution un peu plus cheap.
Ils te vendront le câble spécial. Comme Apple.
Peut-être qu'ils finiront par vendre le câble spécial comme Apple. Voilà, ça coûtera moins cher. Non, 29,99€, comme ça c'est bon. Moi je suis content si ça coûte ça. Donc voilà, le dock supplémentaire, moi c'est le seul truc qui m'avait un peu choqué en termes d'accessoires. Pour le reste, bon, le Pro Controller est un petit peu cher, les Joy-Con sont un petit peu chers, mais effectivement, comme tu disais, Zergy, avec Nintendo, on a l'habitude qu'ils se rattrapent un peu sur les accessoires, et en plus, les accessoires intègrent quand même des technologies assez avancées, donc...
C'est vrai, c'est la seule manette qui a des glaçons à l'intérieur.
Et des billes.
Le circuit réfrigérant, faut le payer, hein.
Ah bah attends, ça coûte pas rien, hein. Je veux dire, c'est pas des blagues. Le dernier prix dont on n'a pas du tout parlé encore, c'est le prix des jeux. Alors c'est vrai que ça a démarré un petit peu fort puisque Zelda au départ il était affiché un peu partout à 70€.
T'étais là. Ouais, il prévoit le pire, je pense.
Je pense que les revendeurs prévoient le pire, mais c'est vrai que c'est redescendu très vite. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est à peu près aux alentours de 51-52€, je crois. Sur les trois jeux de lancement qu'on a, en fait, on a Zelda qui doit tourner aux alentours de 50€, un petit peu plus. Il y a One to Switch qui est à 50€. Et il y a Super Bomberman R qui est à entre 45 et 50€.
Trop cher.
Zelda, ça va?
Non, pas Zelda, mais Bomberman, ça me fait un peu cher, je trouve.
Alors, je sais pas, on sait pas exactement ce que sera le contenu. Hein. Jusqu'à présent, on sait qu'il y a quand même pas mal de niveaux en solo, en coop. Il y a un gros potentiel, mais c'est vrai que ça fait peut-être un peu cher.
Avec ce qu'on a vu à l'événement, j'ai vraiment l'impression que c'est un Bomberman classique, et c'est vrai que ça me fait chier de dépenser 45€ ou 40€ pour ça, alors qu'au final, t'as le même jeu, c'est quoi dire, mais en émulation ou qui se fait depuis 20 ans, quoi. Enfin, il y avait même sur Super NES au final.
Oui, effectivement, ça change pas grand-chose. Puisque vous êtes parti, on va commencer par Super Bomberman R. Donc celui-là, je crois que c'est celui sur lequel tout le monde s'est dit non, mais même à 20€, c'est trop cher. Je sais pas, parce qu'ils vont peut-être pas en tirer beaucoup, du coup, les mecs. Hein. S'ils ont vu les précos et qu'ils comptent là-dessus pour déterminer la quantité qu'ils vont produire, on va peut-être pas faire grand-chose. Hein.
Après, le Street Fighter 2, machin truc, Alpha, là, qu'ils ont annoncé, est-ce qu'ils ont annoncé le prix? Parce que ça a l'air d'être un espèce de jeu Super NES en HD, finalement.
Alors non, il n'y a pas eu de prix d'annoncé, on sait même pas s'il va y avoir une sortie physique, d'ailleurs. Ça va peut-être juste être du dématérialisé, c'est pas impossible. Donc celui-là, il sera pas disponible, je crois, à la sortie, ni le mois de la sortie.
Non, il est à 50% du développement pour l'instant.
Voilà. Et ils ont quand même réussi à faire un mode first person sans aucun intérêt. Bref.
Pour le Super
oui, j'ai
Ultra Street Fighter 2.
Ah oui.
C'est triste. Bref, je reviens sur le prix des jeux. Donc Super Bomberman R, moi je l'ai précommandé. Parce que...
Ah, tu l'as préco, d'accord.
Moi je l'ai préco parce que je
parce que t'as pas de race.
Parce que j'ai pas de race. Parce que c'est Bomberman et que j'aime bien. Et parce que je me dis que c'est le genre de truc avec les collègues, ça va être quand même être relativement rigolo. Je pense qu'il y a moyen. Et puis même en coop, c'est un jeu sympa en coop. J'en connais pas beaucoup en fait des jeux sympas en coop. Donc je me dis que ça peut être marrant aussi. Et puis ce qui est bien, c'est que Bomberman, tout le monde connaît le principe. Je veux dire, personne n'est perdu. Et là, effectivement, tu te trimbales avec ta Switch, t'as déjà tes deux manettes, tu files ça à un collègue et c'est parti quoi. Donc je pense que. Ça peut être une espèce de bon petit party game un petit peu plus évolué peut-être.
Un jeu pour la propagande.
Un jeu pour la propagande, exactement. Mais effectivement, je trouve que c'est cher. Je pense que si le jeu avait été affiché à 30€, ça aurait déjà été beaucoup plus tentant pour pas mal de monde. Là, je sais pas trop. Vous, c'est quoi le bon prix d'après ce que vous avez soit testé, soit vu, soit lu? On a quand même une petite idée du contenu du jeu, on a une petite idée des modes de jeu, on a pu l'essayer.
Bah, moi, de ce que j'ai vu pour Bomberman et pour One to Switch, c'est que c'est le genre de jeu que j'aurais vu en téléchargement à 20 balles maximum, quoi.
Je trouve que pour One to Switch, le gros souci au niveau de la communication, c'est qu'ils ont mis trop de temps à nous dire qu'il y aurait beaucoup de mini-jeux. Et au final, il y a plein de gens qui ont essayé, qui ont cru qu'il n'y aurait que ces 6 mini-jeux-là, qu'on a pu voir à l'événement, et qui ont dit ça un peu partout. Et au final, le temps de défaire cette erreur-là, bah c'est déjà trop tard et tout le monde se dit déjà mais ce jeu c'est je le prendrai jamais et je trouve ça dommage d'avoir mis autant de temps à réagir et à dire ouais bah il y aura presque une trentaine de mini-jeux ou bah ça aurait peut-être changé un peu la vie sur le jeu.
Bah, ouais, on a fait le rapprochement avec Wii Sport et Nintendo Land quoi.
Oui mais c'est ça.
Est-ce que le jeu aurait dû être fourni avec la console? Je pense que c'est quand même le jeu démo
oui.
Par excellence.
Personnellement oui dans le sens où ça montre pas forcément les. Enfin, ça montre les possibilités de la console en termes de déplacement. Et surtout, ça manque le côté un petit peu social. Genre, t'arrives, tu poses ta Switch, t'as le jeu qui est directement dedans, hop, tu peux t'amuser. T'as ce côté un peu jeu de société qui, à mon avis, aurait fonctionné très bien si le jeu était dans la console, fourni avec. Et qui en plus aurait dit oui, non, mais pour 300€, vous avez la console et un jeu. Ou pour tel prix, il y a la console et le jeu, même si c'est un 2 Switch. Et donc, ce côté jeu de société que vous faisait très bien Wii Sport.
Et, oui, en c'est fait, vrai que Wii Sport était assez extraordinaire pour ça.
Voilà. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir fourni avec les consoles, ou en tout cas, peut-être dans les premiers bundles, quoi. Histoire au moins de, aussi que les gens aient quelque chose à montrer facilement à leurs amis et auxquels ils peuvent participer. Mine de rien, parce que Zelda il est beau, il est ambitieux, mais Zelda quand il joue, il joue tout seul.
On n'est pas sûr, peut-être une surprise.
Ah oui, donc bah, à ce stade.
Ah non, mais là, si y a ça, là, je pense qu'il y en a deux ou trois, ils vont faire une espèce d'orgasme, enfin s'évanouir dans leur propre déjection. Parce que voilà, non, c'est peut-être un peu abusé. Mais c'est vrai que One to Switch, c'est. Alors après, je sais pas si Nintendo veut éviter d'avoir justement le jeu démo. Et parce que Wii Sports ça a très bien marché, mais au final les gens ils achetaient la Wii pour avoir Wii Sports. Et de ce point de vue là ça a été un système seller, c'est le meilleur système seller du monde, enfin c'est un truc de ouf. Mais derrière ils ont pas forcément acheté beaucoup d'autres jeux au final.
Bon, après que... derrière du moment que t'as la console installée dans la maison, peut-être que le gamin va dire ah bah y'a machin qui va parler de ça à l'école, ou oh regarde la pub pour Mario Kart à la télé. Et une fois que c'est installé c'est pas compliqué de vendre. Là, One to Switch, enfin nous, on a bien rigolé parce qu'on s'est vu en train de traire des vaches virtuelles, mais ça, c'est presque gênant pour certaines personnes et jamais une grand-mère va aller acheter ça à un gamin.
C'est ce que j'allais dire, c'est il y a 10 ans avec Wii Sport, t'invitais tes potes pour jouer au tennis et maintenant tu les invites pour traire des vaches.
Ça me paraît aussi,
mais c'est vrai que t'avais l'air aussi ridicule en jouant au tennis que quand tu vas traire des vaches aujourd'hui.
Mais je me demande si la R&D de Nintendo s'en est pas rendu compte en se disant que ce serait vachement plus marrant si tu regardais les autres jouer au tennis finalement et se ridiculiser. Et du coup, je me demande si l'idée du jeu est pas venue de là aussi. C'est-à-dire de dire le fait de mimer dans l'air, traire une vache ou jouer au tennis, c'est tellement con qu'il y a peut-être moyen que ça fonctionne, quoi. Parce que ça y ressemble beaucoup. Bon, c'est vrai que. Voilà, moi j'aurais bien vu un petit peu comme ce qui s'est fait au lancement de la Wii U, finalement, un pack avec la Wii U seule, et puis éventuellement un pack avec la Wii U et One to Switch pour. Enfin, la Switch, pardon, et One to Switch pour. Je sais pas, 330, 340€ à la limite, t'avais une petite ristourne de 5-10€ dessus. t'avais le jeu qui était préinstallé, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Enfin voilà, je trouve ça dommage de faire la promo de ce jeu-là sans l'inclure, effectivement. Alors après, on sait pas quel sera son prix sur l'eShop. Ça se trouve, il sera vraiment pas cher et ça vaudra le coup d'aller l'acheter pour le préinstaller sur ta Switch.
Ils pourraient faire par exemple, enfin bah non, du coup c'est un peu con, mais ils auraient pu faire un bundle comme avait fait Wii Play avec One to Switch et une paire de Joy-Con. Mais c'est vrai que c'est un peu con vu que la paire qu'il y a dans le jeu de base
suffit largement. Ouais. Donc, effectivement, enfin voilà, j'ai du mal à savoir en fait moi si One to Switch est une espèce d'anomalie marketing, c'est-à-dire que finalement ils savaient pas trop quoi. Enfin, ils savaient qu'ils tenaient quelque chose de rigolo. Ils avaient le concept. Ils voulaient pas le vendre avec pour pas que ça fasse trop cheap, ils voulaient pas le... Enfin, j'ai l'impression que le truc est le cul entre cinq chaises, en mode on sait pas trop ce qu'on veut, du coup, bon, bah tant pis, on va le release comme ça, et on va essayer de voir si ça marche et si ça prend. Maintenant, le gros de la com de Nintendo, c'est quand même axé autour de Zelda, hein. C'est quand même...
C'est le blockbuster de lancement, quoi.
Ça
reste le jeu phare.
Non, après, One to Switch, il pourrait très bien changer le positionnement, enfin baisser le prix ou l'inclure avec des consoles par la suite, quoi.
Non, mais de toute façon, c'est ce qui finira probablement par arriver, c'est-à-dire que tu auras sûrement des bundles. Alors après, j'ai déjà vu des gens qui faisaient des bundles, hein, entre guillemets, il y a Micromania qui a fait un bundle à 340, t'avais la console et One to Switch, donc t'avais 10€ de ristourne, grosso modo, si tu prenais les deux ensemble. Donc effectivement, je pense que s'ils ont groupé ça, c'est qu'ils ont bien vu qu'il y avait de la demande pour les deux. Mais voilà. Donc en dehors de ça, le seul prix que personne n'a l'air de discuter pour l'instant, c'est le prix de Zelda.
Il y a combien déjà ?
50 et quelques euros.
Et jamais trop cher.
C'est le prix traditionnel Nintendo depuis des années, quoi.
Ouais, depuis la Wii U. Mais justement, je me demandais, à l'époque, PS3, 360, les jeux de la concurrence, enfin de Sony Microsoft, c'était à 70.
Ouais, globalement.
Et ça a pas baissé actuellement, c'est toujours pareil.
Oui, mais c'est 70 en marge haute si tu prends chez Micromania. Personne n'achète tes jeux chez Micromania. Enfin, personne. Je sais pas comment ils font pour vivre d'ailleurs encore.
Micromania, si tu nous écoutes.
Si, bah les gens vont chez Micromania parce que ça reste le vendeur spécialisé dans le jeu vidéo.
Enfin, moi personnellement, je parle pour moi évidemment, mais si j'avais un Micromania en bas de chez moi, je pense que j'achèterais au Micromania en bas de chez moi. En l'occurrence, c'est pas le cas, du coup, je fais autrement. Mais c'est beaucoup plus pour des questions pratiques, finalement, que des questions de prix.
Bah après 70 balles chez Micromania, c'est pas le plus cher, hein. Regarde leurs jeux d'occasion.
Oui, ça c'est...
Les jeux d'occasion, 65€ le jeu...
On peut trouver une 3 pépites, mais bon...
C'est pas forcément vrai, je rappelle que j'ai trouvé un Watch Dogs sur Wii U pour 5€.
T'as trouvé un Watch Dogs sur Wii U déjà.
Trop cher.
Non, moi, c'est le fait de trouver un Watch Dogs sur Wii U en fait qui m'impressionne.
Mais c'est plutôt commun, hein. On arrive à en trouver, hein, les gens. Il y a des jeux beaucoup plus difficiles à trouver que ça sur Wii U. Hein. J'ai essayé de trouver un Lego Batman 3, par exemple, vous allez voir, c'est pas si évident. Bref, donc, globalement, est-ce que vous pensez, on va conclure là-dessus, est-ce que vous pensez que les gens vont suivre ? Moi, j'ai l'impression que les préco marchent plutôt bien. Alors, le problème avec les précommandes, c'est que Cyrard, il en a déjà 8. Pab, il a dû le commander à peu près 6 fois. Donc il y a tout un tas de Nintendo sexuels absolument hardcore qui ont commandé la Switch.
Ils vont avoir une Switch dans chaque pièce.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que Sira, il a dit clairement, il en commande deux, la deuxième, il la revend. Donc voilà. Mais néanmoins, de tout ce qu'on a pu voir, que ce soit sur Internet ou éventuellement en discutant avec des collègues et tout ça, est-ce que vous avez l'impression que les gens vont suivre ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va se vendre, que la machine va mieux partir que la Wii U en tout cas, ou est-ce que vous avez l'impression que le prix est un frein, ou que c'est éventuellement autre chose le frein ? Zergy par exemple ?
Alors moi mes collègues c'est des PC Master Race, donc ils s'en foutent un peu.
Et ils ont bien raison.
En fait sur certains sites, disons un peu informatiques, les mecs ils jouaient les gros blasés genre... Ouais, ça fait pas la 4K, machin. Bon, arrêtez. La PS4 et compagnie, elles font pas la 4K non plus, hein.
Oui, en tout cas, elles la font pas nativement.
Oui, oui, faut acheter la nouvelle version et ça le fait avec 30 FPS, avec le vent dans le dos.
Donc, toi, tu penses que ça va plutôt. Enfin, t'as pas vraiment d'avis sur le sujet, du coup, parce que t'as pas assez.
J'ai pas assez de vision, et puis j'ai l'impression que les gens sont peu méfiant avec les consoles Nintendo, quoi. Enfin, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une espèce de mauvaise foi, quoi. C'est les mecs, en même temps, ils disent « Ah, c'est Nintendo, c'est toujours pareil », et la même personne va dire « Ah, mais je vais acheter quand il y aura le prochain Metroid ou... »
Assassin's Creed 6.
Oui, voilà. Ah, t'as compris le concept.
J'ai tout à fait... Non, mais je connais bien ce genre de personnes, donc y a pas de soucis. Drosgar, est-ce que tu penses que le prix est un frein pour la vente? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses qui sont éventuellement un frein pour la vente? Ou est-ce que tu penses que, finalement, Nintendo a trouvé le bon prix et que là, ils vont y aller, quoi?
Bah, je t'avoue que moi, je l'ai précommandé. Et je l'ai précommandé parce qu'on a eu des offres qui faisaient que c'était nettement plus intéressant. Au début, à 330 ou 350 euros, bah, j'étais pas chaud. Et après, financièrement, je peux me le permettre, j'ai pas de soucis, mais c'est juste que ça me bloquait un peu. Là, en fait, le fait de me dire que déjà, je l'ai payé moins cher que d'autres gens, ça me... psychologiquement, ça me rassure un peu. Parce qu'au final, je l'ai à 250 avec les bons de réduction à la FNAC, là, 10 euros tous les 60 euros. Et enfin, ça me fait Zelda offert. Mais au final, à la base, je voulais vraiment attendre un pack qui pouvait tomber peut-être cet été, un pack Splatoon, un pack Mario Kart, je sais pas, qui aurait peut-être pu faire soit une console collector, parce qu'au final, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir, soit une console un peu moins chère. Donc, je pense que ça va être compliqué.
Après, ouais. Si elle marche, il y aura pas de pack. Hein. La Wii, il a fallu attendre longtemps, je pense que je crois, pour qu'il y ait des packs.
Il n'y a jamais eu de pack sur Wii
Oui, voilà, elle se vendait toute seule, donc...
Il y a eu un pack Mario Kart. Il y a un pack Mario Kart. Mais donc, Drosgar, toi, c'est le prix, t'as comme ça. Si c'était resté vraiment à 330 et que ça avait pas bougé, tu l'aurais peut-être pas précommandé, du coup.
Bah, peut-être pas, j'aurais peut-être préféré attendre. Après, en fait, ce qui m'a vraiment poussé, c'est vraiment le Zelda Day One qui me pousse, et puis vous tous derrière, genre, allez, achète-le. Donc, forcément, ça aide pas, mais...
Ah, le faible, quoi, il est influençable.
Mais il est jeune.
On est tous influencés.
Mais clairement, si j'avais pas été au dojo, j'aurais pas pris tout de suite. Hein. Vraiment, autant une Nintendo fac que je peux être, je pense que j'aurais peut-être attendu un peu. Surtout parce qu'il y a pas de jeu à la sortie, enfin, faut être clair. Limite, la 3DS, il y a plus de jeux, je m'en souviens pas vraiment.
Il y a super mais... bon. Alors non, sur 3DS, il y avait vraiment rien à la sortie.
Il y avait rien. Il y avait un Pokémon qui est sorti bientôt ou un truc qui
est non, il y a le Pokémon, il est sorti vachement longtemps après. Hein.
Non, ah bah, sur 3DS, le jeu que j'ai acheté moi à la sortie de la 3DS, ça devait être Street Fighter 2. Hein. Street Fighter 4, pardon. Super Street Fighter 4.
Je sais même plus s'il y avait quoi comme jeu Nintendo à la sortie de la 3DS, là, pour le coup.
Il n'y avait pas de jeu Nintendo à la sortie de la 3DS. Si, il n'y avait pas Pilot Wings Resort.
Ouais, donc il n'y avait pas de jeu Nintendo. Il y avait voilà. Steel Diver.
Non, aux États-Unis, pas en Europe. Donc ça a été très compliqué.
Ça fait plaisir, je suis en train de comprendre que je suis un pigeon depuis des années, mais c'est pas grave, hein, j'assume.
Tant que t'assumes, ça va.
On est à une sorte, on n'est pas.
Antix, toi, tu l'as précommandé. Pareil, si le prix avait pas bougé, t'aurais pas bougé non
plus. J'ai mis pas mal de temps à la précommander pour une raison principale, c'est que, on va pas se mentir, le jeu le plus intéressant de la sortie, c'est Zelda, et globalement le seul. Même si j'ai repéré peut-être 2-3 titres qui pourront m'intéresser par la suite. Je parlais de Shovel Knight la semaine dernière, mais peut-être que je me laisserai tenter par Disgaea 5 et après que j'arrêterai au bout de 2 heures lorsque je verrai qu'en fait, non, c'est bien trop compliqué, et que je serais mieux de retourner jouer à Fire Emblem. Au niveau tactical.
C'est exactement le genre de réflexe que j'ai en général.
Voilà. C'est clairement Zelda. Et Zelda, comme Shovel Knight pour le coup, est disponible sur Wii U aussi. Et moi, dans le cas de Shovel Knight, j'ai déjà la version Wii U. Donc, je suis pas non plus complètement chaud pour repayer direct. Et globalement, je l'ai commandé que la semaine dernière, parce que le truc qui m'a décidé, moi, c'est que les DLC de Zelda, ils vont sortir sur Switch, enfin, ils vont sortir en hiver, et qu'on va pas se mentir, je pense que la Wii U sera dans le carton depuis très très longtemps, à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je l'achète aussitôt.
D'accord, mais donc toi, le prix est pas vraiment un facteur, c'est plus une question de rationalité, en me disant, de toute façon, Zelda, je l'achèterai, si j'achète les DLC, je l'achèterai que sur Switch, et comme ils sont disponibles qu'en hiver, et que je vais pas laisser la console branchée...
Bah, en fait, voilà. Ouais, c'est ça.
En gros, c'est ça.
De toute façon, au final, c'est pas... Je pense pas que j'aurais vraiment de remords, à moins que le Mario soit très mauvais, puisque c'est en fait pour ce jeu que je l'aurais acheté cet hiver, ça c'était quasiment sûr. Parce que le Mario Odyssey me fait très très envie. Et comme au final, entre-temps, il y a Splatoon 2, franchement, je pense que ça fera quand même 3 bons jeux sur la première année, peut-être d'autres surprises à l'E3, parce qu'au final, on connaît très peu le planning passé le mois de juin.
Ce qui est peut-être pas une bonne... Enfin si, on connaît Splatoon 2, Mario.
Voilà, donc on connaît pas grand-chose. On peut s'attendre à des surprises, un jeu de rétro studio, peut-être d'autres titres aussi. Par exemple, Pikmin 3... Pikmin 4, par contre, d'après Miyamoto, était fini. Peut-être qu'on l'aura avant la fin de l'année. Donc, c'est vrai que pour le coup, on peut se dire que, ouais, il y aura pas des millions de jeux, mais... Après, j'ai pas besoin d'avoir des millions de jeux tant qu'il y en a, il y en a un qui est quand même plutôt intéressant par trimestre, parce qu'après je joue aussi à d'autres jeux à côté, donc voilà. Je suis pas non plus considérer que c'est un mauvais investissement, et puis financièrement, je pense que je peux me le permettre à l'heure actuelle.
D'accord. Bon, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. C'était notre avis sur le prix, en gros.
C'était le juste prix.
C'était le juste prix, voilà. Voilà, et oui, c'est gagné.
12.
Cette blague est totalement voulue.
Non mais voilà, c'est fait. On a assumé le truc. On va terminer avec la citation du jour qui nous vient d'Antix. Qui l'a faite juste avant l'émission, donc qui alimente le dojo de manière un petit peu voilà. Il nous a dit j'en ai une de 140 cm qui pèse son poids. Je n'ai pas plus de détails. On n'a pas le contexte hein, encore une fois, donc c'est quand même très compliqué d'arriver à se comprendre.
Est-ce qu'on n'a pas le contexte ou tu l'as juste supprimé?
Je l'ai retiré, je l'ai un petit peu extrait de son contexte pour la rendre plus savoureuse. Vous avez le droit de la réutiliser celle-là aussi.
140 cm de savoureux.
Bref, en plus il parlait bien d'un objet de forme phallique, donc effectivement.
<Qu'il faisait. rire>
Ça devient très compliqué. Bref, je vous remercie de nous avoir écoutés. Vous nous retrouvez donc en podcast demain si tout va bien. Faut que j'arrête de taper dans mes mains parce que je fais du Larsen. Et on se retrouve la semaine prochaine où on parlera, ce sera l'émission juste avant la sortie, donc je sais plus exactement ce que c'est le programme parce que j'ai pas regardé sur le forum avant, mais de toute façon on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde, bisous.
Bye.
Salut.
Salut.